Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM avec vous, deuxième partie de l'émission avec Thomas Schnell qui m'a rejoint. Et on va parler aujourd'hui, Thomas, d'actifs numériques.
Oui, bonjour Sandra, bonjour à tous. Aujourd'hui, on accueille avec nous Anne Maréchal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes associé chez De Gaulle Fleurance. Avec vous, on va voir le milieu des actifs numériques qui prend, on le sait, sur BFM Business de plus en plus de place. Mais aujourd'hui, il faut jouer en respectant les règles puisque c'est fini l'époque où on pouvait tout se permettre. On va commencer d'abord par une activité qui est de plus en plus présente aujourd'hui dans un grand nombre d'entreprises qui se lancent pour devenir des plateformes de vente de crypto-monnaies. On parle là des bitcoins, Ethereum et autres. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut jouer les intermédiaires avec les particuliers? Qu'est-ce qu'il faut respecter comme règles?
Alors les acteurs de la finance, de la banque et les nouveaux acteurs, enfin les acteurs de ce nouveau monde de la blockchain s'intéressent tous aux crypto-monnaies et c'est un marché qui est fluctuant certes, mais dont la valeur est estimée à plus de 1000 milliards de dollars et donc il y a des opportunités sur ce marché à saisir. Et il faut savoir que cette activité, donc la création d'une plateforme de négociation d'actifs numériques et d'achat-vente, est aujourd'hui réglementée. Si vous voulez créer une telle plateforme et proposer ces services, vous devez donc demander à l'autorité des marchés financiers un enregistrement. Cet enregistrement vous conférera le statut de prestataire de services sur actifs numériques, le fameux PSAN, et l'AMF va vérifier pour vous l'accorder que la plateforme va être capable de respecter les règles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, pour l'essentiel.
Parce que c'est ça la grande spécificité, c'est qu'on parle d'enregistrement seulement auprès de l'autorité des marchés financiers, de l'AMF, et non pas d'agrément.
Alors, il y a une différence, vous avez raison, avec l'agrément. C'est une spécificité de la réglementation française, son originalité. Sachez que la France a été très en avance, est très en avance pour la réglementation des actifs numériques et elle a créé une réglementation qui prévoit la possibilité pour ces acteurs qui veulent créer une plateforme de ce type de demander un agrément. Donc au-delà de l'enregistrement, cet agrément apporte des garanties importantes en termes de fonctionnement de la plateforme et de garanties pour les investisseurs. C'est un agrément qui est délivré par l'AMF sur une base volontaire. C'est-à-dire que les acteurs ne sont pas obligés de l'obtenir. Mais s'ils vont le demander, et les acteurs sérieux aujourd'hui le demandent, les premiers agréments sont en passe d'être délivrés par l'AMF, ils vont permettre à ces acteurs de bénéficier d'un capital de confiance. Parce que cet agrément volontaire, c'est en quelque sorte un label de qualité. Mm-hmm. Et donc ça va donner confiance aux acteurs, aux clients, et donner un bénéfice important à ces acteurs qui pourront notamment procéder à du démarchage, qui autrement est interdit.
Vous dites que la France est en avance sur ce domaine. En revanche, on a l'impression que les banques, en France particulièrement, elles freinent encore des quatre fers. Est-ce que c'est encore le cas ou est-ce qu'elles s'y mettent?
Alors, je crois que les banques ont bien évolué. Les banques ont compris que la blockchain était essentielle pour leur avenir. Et effectivement, elles étaient très prudentes. Elles craignaient notamment les pratiques de blanchiment. Et elles ont aujourd'hui, je crois, beaucoup évolué. Elles acceptent plus volontiers d'ouvrir des comptes à ces sociétés qui souhaitent travailler dans ce domaine. Et encore une fois, comme elles sont désireuses de développer des projets sur la blockchain, je crois qu'elles sont vraiment en train d'évoluer.
Alors, on va parler d'un mot un peu technique, on va rester très clair pour nos auditeurs et on va vulgariser le plus possible, la tokenisation des actions, des obligations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça correspond et à quel point est-ce qu'aujourd'hui ça peut prendre de la place dans les échanges financiers?
Alors, on parle de security token, là, c'est-à-dire d'instruments financiers. On ne parle plus d'utility token, d'instruments financiers, c'est-à-dire pour l'essentiel des actions ou des obligations. Et là, l'enjeu est majeur, notamment pour les banques, de pouvoir tokeniser ces titres financiers pour pouvoir les inscrire, voire les négocier sur la blockchain. Pourquoi ? Parce que ça présente des avantages absolument considérables en termes de coûts des transactions qui sont bien moindres sur la blockchain, de fiabilité, de liquidité. Donc c'est une évolution qui n'est pas un effet de mode, on y va. Et tous les secteurs s'y intéressent. Au-delà de la finance, on peut par exemple tokeniser de l'immobilier, c'est-à-dire loger un immeuble dans une société dont on va inscrire les actions sur la blockchain et ça permettra aussi d'avoir par exemple plus de liquidité. Et donc c'est une évolution importante. différente. Le problème que l'on rencontre et qui est absolument majeur aujourd'hui, c'est que la réglementation financière qui est européenne pour l'essentiel et notamment la directive MiFID 2 n'est pas compatible avec la blockchain. Elle n'a pas été pensée, si vous voulez, pour la blockchain. Par conséquent, les acteurs qui veulent développer, notamment toutes les grandes banques françaises et étrangères, veulent développer cette tokenisation des instruments financiers, se heurtent non pas à des obstacles techniques, puisqu'ils sont prêts, ces projets sont prêts, mais à des obstacles juridiques, puisqu'ils ne peuvent pas respecter cette réglementation sur la blockchain. Par exemple, sur la blockchain, on demande... On n'a pas d'intermédiaire. Or, la réglementation financière traditionnelle existe déjà des intermédiaires. Vous voyez, donc c'est pas compatible. Et donc on a une idée, c'est une initiative française là aussi, on a demandé à la Commission européenne d'imaginer une période d'expérimentation pour que les acteurs puissent développer leur projet malgré ces obstacles juridiques. Donc sans respecter les contraintes de la réglementation financière traditionnelle, les acteurs qui veulent développer ces projets, et encore une fois il y en a dans les cartons, sont grâce à ce règlement européen qui s'appelle le régime pilote, qui a créé un bac à sable, si vous voulez, une période d'expérimentation, ils peuvent aller demander à l'autorité des marchés financiers une autorisation pour développer leur projet en dérogeant à ces règles. Et vous voyez que c'est une innovation importante hein, au niveau européen, on n'avait pas fait ça souvent, et j'attire vraiment l'attention notamment des grandes banques et des acteurs dans ce domaine. Il faut aller demander cette autorisation à l'AMF, c'est le régulateur national en France, c'est l'AMF, pour avoir cette autorisation et développer ces projets. Parce que sinon, vous ne pourrez tout simplement pas le faire. Et c'est possible dès maintenant, le règlement entre en vigueur en mars prochain, mais dès maintenant, l'AMF accepte de recevoir les acteurs et pour envisager cette autorisation.
Pour qu'on comprenne bien et qu'on soit bien sûr aussi de parler de la même chose, on parle des blockchains en tant que technologie, mais aussi en tant que parfois investissement. Et l'idée tokeniser, comme on dit, est-ce que c'est bien, dans l'immobilier par exemple, ou dans d'autres secteurs, est-ce que c'est bien de diviser, comme aujourd'hui on peut capitaliser une entreprise, on divise en actions aujourd'hui, là on va diviser en actifs numériques, on va pouvoir investir dedans, mais ça va fiabiliser le process. C'est là où vous parlez d'absence d'intermédiaire.
Absolument. Donc, tout est inscrit dans la blockchain. On peut inscrire beaucoup de choses dans la blockchain grâce au smart contract. Et donc, vous avez un actif numérique qui est très complet et qui va pouvoir vous donner toutes les caractéristiques de l'actif en question avec une fiabilité totale. Puisque on n'a pas de possibilité de frauder ou c'est fiable sur la blockchain. Et puis un historique des caractéristiques de l'outil. Par exemple, dans l'automobile, on se dit qu'on va pouvoir fiabiliser le marché de l'occasion des voitures parce qu'on aura tout l'historique des achats et des ventes d'une voiture d'occasion.
Vous voyez, donc ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de carte grise, par exemple, que même nos papiers officiels, finalement, ils pourraient être authentifiés par cette technologie-là, finalement ?
Alors, on peut tout authentifier sur la blockchain. Après, il peut y avoir d'autres réglementations qui s'appliquent, bien entendu, notamment dans l'immobilier. On ne peut pas se passer aujourd'hui d'un notaire, mais on peut quand même tokeniser les actions d'une société qui détient un immeuble, comme je vous le disais.
On va se mettre du point de vue des entreprises. Les NFT se sont beaucoup développés. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'une entreprise peut faire ce qu'elle veut dans ce domaine, nous demande-t-on ?
Alors, les NFT, ce sont des non-fungible tokens, c'est-à-dire des jetons non-fungibles. Autrement dit, un actif qui va être inscrit sur la blockchain et qui est unique, comme une œuvre d'art. C'est souvent d'ailleurs un dessin, un modèle, une œuvre d'art qui comporte... Alors, le NFT donc, est inscrit sur la blockchain. Il y a un certificat électronique d'authenticité. Et le propriétaire est le seul propriétaire. On lui garantit qu'il est le seul propriétaire de cet actif qui est unique. Donc vous voyez, ça présente beaucoup d'avantages, d'autant que sur la blockchain, on peut associer beaucoup d'informations, mettre beaucoup d'informations dans ce NFT. On peut mettre des images, de la vidéo, du code, enfin, donc voilà. Donc il y a beaucoup d'applications, ça s'est effectivement beaucoup développé, au-delà du domaine de l'art, comme je vous le disais. Il y a des projets dans des tas de domaines aujourd'hui.
La voiture d'occasion, vous disiez, mais également les billets de train.
Les billets de train, on pourrait acheter, fiabiliser l'achat et la revente de billets de train.
Bon, là, on n'est plus dans l'investissement, du coup,
non.
On parle...
Mais il y a, me dit-on, des centaines d'applications de la blockchain par métier. C'est ce que disent les spécialistes.
On va parler un mot du métavers aussi,
oui.
Qui est une extension finalement de la blockchain ? Est-ce que ça correspond aux mêmes technologies, aux mêmes domaines ?
Le point commun, c'est l'actif numérique. Il n'y a pas forcément de la blockchain toujours dans le métavers, mais le point commun, c'est l'actif numérique. Notamment, on paye, on a un crypto-actif sur la blockchain, et on a beaucoup. On peut, par exemple, acheter des terrains via des NFT sur le métavers. Donc, c'est ça le point commun. Le métavers, offre des potentialités absolument immenses et fascinantes. Hein. On peut avoir des loisirs, mais il y a l'accès à la culture, on peut visiter des musées virtuels, on peut travailler, on peut par exemple organiser des salons professionnels, ça se fait dans le métavers où vous pouvez rencontrer les personnes que vous souhaitez rencontrer via vos avatars, et puis on peut se former. On envisage la formation de chirurgien, par exemple, sur le métavers. Donc, ce n'est pas anecdotique pour moi. Le métavers, c'est un potentiel absolument immense. Les entreprises peuvent évidemment aussi y vendre leurs produits ou leurs services. Ouais. Et ça commence à se faire. Les entreprises fourmillent d'idées pour le métavers.
Et il faut le protéger.
Le message qu'on peut faire passer, nous, en tant que juristes, c'est qu'il est, à mon sens, faux de penser que parce qu'on est bien protégé dans le monde réel, par le droit tel qu'il existe aujourd'hui et la jurisprudence des tribunaux, on sera automatiquement protégé dans le métavers de facto, si vous voulez. Ça, je crois que c'est une idée fausse. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problématiques nouvelles dans le métavers. Il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé. Par exemple, comment vous allez vous assurer que vous respecterez les règles en matière de protection des données sur le métavers ? Comment vous allez assurer que votre identité ne va pas être usurpée ? Comment vous allez réagir si vous êtes squatté sur le métavers ? Ça s'est arrivé. Il y a des locaux que vous avez achetés dans le métavers, ils sont squattés. Qu'est-ce que vous allez faire ? Comment vous allez vous y prendre ? Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, des problématiques nouvelles, et notre recommandation, c'est de penser les projets en amont, de sécuriser juridiquement ces projets en amont le plus possible pour profiter des opportunités sans les déconvenues.
Il faudra faire une autre émission sur ce sujet.
Il faudra continuer pour savoir la protection aujourd'hui. Est-ce que le droit est suffisamment compétent pour répondre aux nouvelles problématiques par le métavers ?
Il est balbutiant. Dans ce domaine, il n'y a pas de réglementation spécifique au métavers aujourd'hui.
Merci. Merci beaucoup, Anne Maréchal. Vous reviendrez nous voir sur ce plateau.